Bonjour, je m'appelle Mayo Lonave, je suis élève en première SAVE A à Bourg-les-Valence au Valentin. Moi et mes collègues avons plusieurs questions à vous poser sur le film La Féline. Tout d'abord, savez-vous pourquoi La Féline en particulier a été restaurée et pourquoi celui-là et pas un autre?
Je pense que La Féline a été choisie parce que c'est d'abord le film le plus célèbre de son auteur, Jacques Tourneur, de celui qui a réalisé ce film-là. Et pourquoi c'est le film le plus connu de Jacques Tourneur? C'est parce que il s'agit de son premier film fantastique. Il a réalisé d'autres films avant, mais c'est le premier film qu'il a réalisé qui appartient au genre fantastique, et notamment qui a été produit par cette société de production qui s'appelle la RKO. Et donc c'est vraiment le film qui a permis un petit peu de signer son œuvre quelque part. Et après, il va reprendre un petit peu certaines recettes qu'il aura utilisées dans ce film, dans des films ultérieurs. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a marqué et que c'est pour ça qu'il a été restauré.
Une autre question, du coup, quelle importance avait ce film à cette époque, à l'époque où il a été conçu?
Eh bien, à l'époque où il a été conçu, je pense que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est resté encore aujourd'hui dans les mémoires et qu'il est aussi important, c'est parce que c'était un des premiers films qui a rompu avec le fantastique tel qu'il était mis en scène jusque-là. Il y avait notamment une société de production qui s'appelle toujours la Universal et qui avait produit beaucoup de films à cette époque-là, des Dracula, Frankenstein, Loup-garou, etc. Où le surnaturel n'était pas forcément questionné. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui pouvait se transformer en loup-garou, il y avait quelqu'un qui était un vampire, il y avait une créature qui avait été créée par le docteur Frankenstein, etc., etc. Alors que dans La Féline, comme vous l'avez peut-être vu, on ne sait jamais si le personnage principal, Irena, est capable de se métamorphoser ou pas en animal. Panthère ou léopard. Donc c'est toujours, on s'interroge toujours sur ces capacités-là, et donc on ne sait jamais si c'est elle qui a un problème et qui imagine pouvoir se transformer, tout se passe dans sa tête, ou si réellement elle peut se transformer. Donc on ne sait jamais si le surnaturel existe ou pas. Et tout est suggéré dans ce film, vous l'avez peut-être vu, mais à chaque fois on ne voit jamais vraiment de transformation, par exemple. On nous suggère qu'une transformation est possible, mais on n'en est jamais sûr. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du champ, c'est-à-dire qui est invisible, qui est suggéré, évoqué, mais pas montré directement, si vous voulez. Alors que jusque-là, le fantastique montrait les choses plus directement, et le spectateur devait admettre qu'il était face à un monde qui répondait à des codes surnaturels, ce qui n'est pas le cas avec La Féline. Donc je pense que c'est pour beaucoup une sorte de révolution dans le genre fantastique.
Une dernière question et je passe à mes collègues. Est-ce que ce film est exclusivement, est-ce que ce film est exclusivement diffusé en festival?
Non, enfin, c'est-à-dire cette année, honnêtement, je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est le luxe qui a décidé cette rétrospective. Mais c'est un film que l'on peut voir. Alors, cette année, honnêtement, je ne sais pas, mais très souvent, il repasse dans des cinémas. Il peut être restauré, il peut passer aussi sur d'autres médias. Mais je pense que je ne sais pas honnêtement s'il a fait l'objet d'une sortie nationale ou pas, ou s'il est visible qu'au festival au Luxe cette année. Mais Jacques Tourneur est un réalisateur très connu, le film aussi, et par conséquent, c'est un film qui fait l'objet quand même régulièrement de rétrospective dans des cinémas.
Bonjour, je m'appelle Télio, donc je suis en classe de première Stava toujours. Et je voulais savoir pourquoi il y a tant d'indifférence de la part des deux personnages principaux quand la panthère elle meurt. Et est-ce que cette indifférence elle marque un message caché dans le film?
Oui, à la fin, vous voulez dire lorsque Oliver, son mari, le mari d'Irena, se rend compte qu'il dit d'ailleurs, elle avait raison, elle nous avait pas menti. Donc il comprend à ce moment-là que peut-être Irena, effectivement, était capable, et la panthère, et sont une seule et même personne. Ben, c'est parce que je pense que s'il y a un message caché, en tout cas, c'est que Oliver et sa collègue Alice, avec laquelle il commence à avoir une histoire, eh bien, représente un petit peu une forme de conformisme américain notamment, mais on va dire conformisme. C'est-à-dire, ce sont des gens plutôt plutôt carrés, plutôt conformistes, qui suivent la raison, qui sont très rationnels. Alors qu'Irena, comme vous l'avez vu, c'est un personnage. Bon, d'une part, on se demande toujours si elle a pas des pouvoirs. Alors un peu malgré elle, mais si elle se métamorphose pas en panthère. Mais en plus, c'est quelqu'un de torturé, quelqu'un d'assez secret, quelqu'un d'un peu marginal, et notamment le fait qu'elle vienne aussi d'Europe et notamment de Serbie, c'est pas indifférent. C'est-à-dire qu'elle vient d'un pays de l'Est et elle a du mal. On sent qu'elle a du mal à se fondre dans la société américaine, dans les codes, dans les conventions de la société américaine. Donc elle est toujours un peu marginalisée. Elle le dit d'ailleurs au début. Qu'elle n'a pas vraiment d'amis, qu'Oliver, c'est la première personne qui entre dans son appartement. En fait, elle a des collègues de travail, mais elle n'a pas vraiment d'amis. Donc, je dirais que s'il y a une indifférence de la part de son mari et d'Alice face à sa mort, ça viendrait de ça, en fait. Je pense que très vite, d'ailleurs, Oliver, il a peur de sa femme, en fait. Il se rend compte qu'il a épousé une femme qu'il ne connaît pas, qui a beaucoup de secrets, qui est très mystérieuse. Et ça lui fait peur. Et donc finalement, ils sont rassurés quelque part. Ils le disent pas comme ça, bien sûr, mais quelque part, ils sont rassurés quand elle meurt ou quand la panthère meurt. On ne sait pas si la panthère et elle sont les mêmes personnes, parce que c'est quelque part, c'est tout ce qu'ils ne comprennent pas qui meurt à ce moment-là. Et forcément, bah parfois, ça dérange. En fait, ce qu'on comprend pas, ce qui est différent de nous, ça dérange. Et c'est ce qui arrive à ce moment-là du film, quoi. C'est quelque chose de différent de ce couple. Et donc, ils sont quelque part rassurés de retrouver ce qu'ils connaissaient jusque-là, leur rationalité, leur convention, etc.
Bonjour, monsieur Jailloux. Je m'appelle Thibaut Chavanel. Je suis en première STAV A au Valentin. Je voulais savoir pourquoi le réalisateur a voulu mettre en évidence une panthère dans son film.
Oui, vous voulez dire pourquoi une panthère plutôt qu'un autre animal, par exemple, peut-être. Par exemple. Mais alors, moi, ce que je comprends, effectivement... même si je ne saurais pas faire la différence exacte entre panthère, léopard, etc. Hein, on va dire que c'est... Mais je pense que ce qui l'intéressait ici, c'était de représenter un animal connu, en tout cas pour sa force, pour le caractère, en tout cas dans notre représentation, notre imaginaire. Hein, c'est quelque chose de sauvage qui vivrait comme ça dans la savane ou la jungle, qui serait totalement hors de contrôle, qui serait plein de pulsions et qui aurait une force... très très impressionnante. Je pense qu'il a choisi pour ce que ça représente pour l'être humain. Quand on pense à panthère ou léopard, on pense vraiment à une force extrêmement importante. Donc, qui entre un petit peu en contraste avec Irena telle qu'elle nous est représentée, parce qu'elle nous est représentée plutôt comme un être assez secret, peut-être un peu faible, un peu fragile. Qui montre pas vraiment ses émotions, enfin voilà, qui est un peu torturé, alors que la panthère ce serait la force, on va dire un peu mécanique, impulsive. Et donc la panthère représente, c'est comme ça que souvent ça a été analysé, les pulsions enfouies de cette femme. Mais tel que chaque être humain en fait a des pulsions enfouies qu'on pourrait représenter sous forme d'un animal qui tout d'un coup surgirait en fait, hein, et montrerait les dents, montrerait les crocs.
Et ça me fait penser à quelque chose. J'aimerais savoir si le fait que ce soit une panthère, c'est pas lié aussi à la féminité, quelque chose d'un peu félin qui serait mis en évidence par rapport au personnage principal.
Oui, vous avez raison, parce que effectivement, en plus en français, on peut parler où on me disait une féline, par exemple quelqu'un qui a un aspect félin comme ça. Et donc à la fois animal et féminin, effectivement. Alors même si le titre original c'est Cat People, alors c'est vraiment plus c'est encore autre chose. Mais vous avez raison, effectivement. Je pense que aussi dans l'imaginaire, il y a quelque chose de féminin aussi, effectivement, dans le félin. Encore une fois, dans les représentations et notamment dans les représentations de l'époque. C'est l'idée, effectivement, c'est un peu la peur aussi, je dirais même de la femme, ou la peur de la sexualité féminine aussi, hein, qui rejaillit à travers ce personnage de panthère, Encore une fois, Irena est un personnage féminin qui fait peur. Parce qu'elle ne, ressemble pas aux autres personnages, elle est différente. Et donc, et donc sa féminité, je pense, fait partie de ce qui fait peur, parce qu'il y a l'idée que la, alors qu'il pourrait paraître justement très très sexiste encore aujourd'hui, hein, mais bon, c'est un film de 1941, mais il y a l'idée effectivement que la femme serait aussi dangereuse. Vous savez peut-être qu'à l'époque aussi, il y avait toute une série de films qui appartenaient au genre du film noir. Et dans le film noir, dans le cinéma américain, il y avait un personnage qu'on appelait Fatal. Et la femme fatale, effectivement, c'est un personnage aussi quasiment surnaturel, animal, dangereux, vénéneux pour l'être humain, pour l'homme en particulier, pour la gente masculine. Eh bien, là, c'est un peu ça, effectivement. La panthère, effectivement, c'est tout ce que souhaiterait... c'est pour ça que le film a été vu aussi comme un film aujourd'hui féministe, parce que c'est aussi une femme qui, à travers la panthère, va finalement affirmer son caractère, affirmer ce qu'elle est au fond d'elle, et c'est ça qui fait peur. Il préférerait que cette femme, finalement, reste discrète, reste à sa place, entre guillemets, alors que la panthère, finalement, exprime ses pulsions, et donc elle obéit à ses désirs, en fait, elle répond à ses désirs. Et c'est ça qui fait peur aussi.
Bonjour, je m'appelle Lucrezia. Est-ce que c'était courant à l'époque d'utiliser les animaux dans les films ?
Oui, enfin, il y a d'autres films effectivement où les animaux interviennent, où des vrais animaux interviennent, comme c'est le cas là, puisque ici il y a des vrais plans de panthères qui sont visiblement dressés en fait, même en dehors du zoo. Et donc effectivement, il y a des films. Alors je pense notamment là, ce qui me vient comme ça à l'esprit, il y a une comédie assez connue de la fin des années 30 qui s'appelle en version française, c'est L'impossible Monsieur Bébé. Alors c'est Bringing Up Baby en version originale, c'est-à-dire élever un baby. Alors c'est comme ça qu'on appelle l'animal. Et il s'agit d'ailleurs, alors je ne sais plus si c'est une panthère, je suis désolé si c'est un léopard, une panthère exactement, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un animal qui a un rôle important dans le film. Alors là, il s'agit d'une comédie. C'est parce que cet animal-là est totalement incontrôlable, on n'arrive pas à le maîtriser, et par conséquent, il est générateur de situations plus ou moins comiques dans le film. Donc, je dirais que oui. Alors après, dans ce genre fantastique, je vais pas là, ça me vient pas comme ça. J'ai pas d'idée de vrai animal en tout cas, qui ne serait pas surnaturel et qui serait pas créé par des effets spéciaux, qui serait dans des films. Mais en tout cas, oui, je pense que très souvent. L'animal, notamment dans ces années-là, dans les années 30-40, a été utilisé dans ce film-là, comme dans la comédie que je vous ai citée, là, L'impossible Monsieur Bébé, comme une image justement de la pulsion, de ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, d'un caractère justement qu'on n'arrive pas à contrôler, si vous voulez. C'est un peu ça. Donc ça peut donner soit de la comédie. Parce que ça peut être drôle justement, quelque chose ou quelqu'un qui ne se maîtrise plus et qui fait n'importe quoi et qu'on n'arrive plus à contrôler, qui est totalement irrationnel. Et ça peut donner du fantastique aussi, quelque chose de plus inquiétant, plus dangereux, comme dans la FI.
Et pourquoi vous aimez étudier ce genre de film ?
Le genre fantastique m'a toujours intéressé parce que je pense avant tout qu'il permet de mettre en avant toute la mise en scène en fait cinématographique. C'est-à-dire que là, dans La Féline, par exemple, comme c'est un film où on ne voit pas véritablement les métamorphoses, il y a beaucoup de zones d'ombre, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeux entre le champ, c'est-à-dire ce que l'on voit, et le hors-champ, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans le cadre, en fait, ce qu'on ne voit pas. Et donc, ce qui va faire imaginer au spectateur plein de choses. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec ce genre de film, c'est qu'il joue beaucoup avec notre imaginaire, notre imagination. On essaie... encore une fois, d'imaginer ou de se représenter ce qui se passe entre les plans, ce qui se passe en dehors des plans. Et donc, c'est ça qui m'intrigue beaucoup.
Et pour finir, quel serait le film que vous nous conseillerez ?
En général ou alors actuel ou... Je ne sais pas si vous pouvez préciser votre question.
Un film fantastique.
Ah, un film fantastique, d'ailleurs. D'accord. Et de n'importe quel... de n'importe quand. Moi je dirais, alors ce qui me vient comme ça, alors peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs, parce qu'il y a un autre film très important de Jacques Tourneur et qui est souvent considéré aujourd'hui comme peut-être son meilleur, qui s'appelle Vaudou. Alors peut-être que je triche un peu parce que c'est un autre film du même réalisateur, qui s'appelle A Walk with the Zombie, c'est en version originale, mais ça a été traduit par Vaudou. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas, ce film-là, je ne sais pas. Donc ça, c'est le film qu'il a fait juste après, qui est un film extrêmement original, qui se passe dans une île des Caraïbes autour de la figure du zombie et des rituels vaudous. Et ça, c'est vraiment un très beau film, parce que c'est un film fantastique, mais également très, très poétique. Et peut-être, je sais pas, dans des films, on va dire, plus récents, un film que j'ai beaucoup aimé, fantastique, c'est un film qui s'appelle It Follows, par exemple. Je sais pas si vous connaissez, c'est un film qui a une dizaine d'années maintenant, à peu près, qui est un film américain, qui est très intriguant. C'est autour d'une bande d'amis, en fait, de jeunes amis, qui sont persuadés, enfin, certains sont persuadés d'être suivis par quelque chose ou quelqu'un. Et c'est très original, parce que c'est-à-dire que dès qu'on voit, en fait, des gens dans la rue ou dans un plan, etc., bah, on se demande si c'est pas une menace, en fait, si la menace ne vient pas d'une de ces personnes-là. Dès qu'on voit quelqu'un qui commence à s'approcher juste en marchant de quelqu'un dans la rue, eh bien, on se demande si ça ne devient pas une menace. Et je trouvais que l'idée était très originale, la mise en scène très forte. Et là aussi, c'est un film aussi assez mélancolique, assez triste, sur des jeunes Américains de banlieue. Donc voilà, ça s'appelle It Follows, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par... Ça n'a pas été traduit, hein, mais c'est intéressant le titre, parce qu'on pourrait traduire par « ça suit », en fait, mais sans qu'on sache ce qui suit. En fait, ce n'est pas quelqu'un en particulier qui suit un autre ou qui menace, mais c'est vraiment « it », quoi. Comme le... Vous connaissez peut-être un peu comme le roman Stephen King et puis le film qui a été adapté de Stephen King, « it ». Donc c'est vraiment l'idée qu'on n'arrive pas vraiment à définir la menace. On ne peut pas l'identifier. En fait, on ne peut pas lui donner un nom. Ça, je trouve très intriguant.
Et de nouveau moi, et après c'est fini. Quelle est, dans votre vie, l'importance du cinéma ?
Bah, elle a une importance déjà. Enfin, c'est d'abord une passion, bien entendu. De voir des films, de lire aussi beaucoup sur les films, de les analyser. Et puis, c'est même un métier, en fait, depuis une dizaine d'années, puisque moi, j'enseigne le cinéma à l'université de Grenoble et à Valence. Donc, je l'enseigne. Et puis, j'écris aussi dessus. C'est-à-dire, je fais de la recherche sur le cinéma. C'est-à-dire que j'écris dessus. Je participe à des colloques ou des journées d'études où je fais des communications sur des films, des cinéastes ou autres. Et puis je peux écrire des articles ou des livres sur le cinéma. Donc c'est à la fois une passion et puis dont j'ai fait une profession.
Merci de nous avoir accordé du temps. Merci. Bonne fin de journée.
Merci. Merci. Merci.